Je vais me présenter juste rapidement. Donc, je suis psychologue clinicienne et j'ai travaillé en fait pendant 15 ans dans des services de protection de l'enfance et dans un IME. Et là, depuis 1 ou 2 ans, je suis plus autour de la parentalité, petite enfance, parents, et puis toujours auprès d'adolescents dans un lycée. Alors, autorité et bienveillance. Ça m'a fait me poser en fait une question que sans doute tous les parents se posent. Comment on éduque les enfants? Malgré en fait, voilà, c'est une question qu'on se pose depuis des siècles, hein, et on n'a toujours pas la réponse. Le mode d'emploi, il est introuvable. Donc on va essayer de réfléchir ensemble ce soir en fait à cette question qu'on pourrait peut-être formuler aussi comment essayer de se faire obéir sans trop sévir. Une question que se posent sans doute tous les parents. Donc, au sein un peu des familles, les parents s'essayent à l'autorité bienveillante, à l'éducation positive, qui est assez efficace, joyeuse quand l'enfant est sage, mais quand il résiste un peu, c'est un petit peu plus difficile. Donc, chaque parent est sans doute toujours un peu obligé de demander à son enfant, sur un ton plus ou moins vif, de lui obéir ou d'élever la voix. Quand celui-ci résiste. Donc, ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que les parents aujourd'hui se retrouvent sans doute un peu tiraillés, en tout cas. Alors, d'un côté, avec le souhait que les enfants puissent obéir, et puis d'un autre côté, ils ont aussi conscience que c'est une manière de s'affirmer et de se construire. Donc, comment on essaie de trouver un équilibre entre les deux? Et aujourd'hui, peut-être que les termes d'autorité et d'obéissance, ils peuvent être perçus comme dépassés ou un peu archaïques par rapport à d'autres termes. On parle plus de communication, de négociation, qui sont un petit peu plus à la mode. Alors, est-ce qu'on va essayer de réfléchir ensemble? Est-ce qu'il peut être bon ou néfaste de demander à un enfant d'obéir? Est-ce que ça risque, voilà, d'être compliqué pour lui? Est-ce qu'on peut les blesser, les humilier? Est-ce qu'un enfant, il sait toujours ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il s'arrête spontanément quand on lui demande quelque chose? Et est-ce que même quand on lui demande d'obéir, il obéit du premier coup? Donc on voit bien, en fait, je vois des noms, on voit bien qu'à travers toutes ces questions, ça met en tension, en fait, un peu ces deux termes-là, d'autorité et de bienveillance. Et que, en fait, on va essayer de redéfinir un peu ces termes, voire aussi différents courants éducatifs, parce que je pense qu'il y en a certains qui les opposent. Et puis, on va peut-être essayer de voir comment on peut plutôt les concilier que les opposer. Donc, je vais essayer de revenir assez rapidement, puisque j'ai que 21 minutes, sur les différents modèles un petit peu éducatifs, et selon les époques. Parce qu'en fait, ça fait qu'il y a un changement un peu de regard sur les enfants et forcément un changement de position pour les parents. Donc si on revient au modèle traditionnel de l'éducation, le but en fait de l'éducation autrefois, c'était obtenir qu'un enfant, pour qu'il devienne un adulte, se conforme aux exigences de la société dans laquelle il allait vivre. Et on percevait, on va dire, l'enfant un peu comme une herbe folle, qui pouvait pousser un peu de travers et qu'on essayait de faire pousser droit. Donc ça donnait un style d'éducation qui était assez rigide et puis qui était fait de beaucoup d'interdictions. Et on avait beaucoup d'expressions comme ça se fait pas, ça se dit pas, c'est comme ça. Et ça s'arrêtait en fait là pour les parents. Et c'était des expressions aussi qui permettaient de masquer ou de ne pas parler forcément des émotions, parce que c'était pas quelque chose qui se disait, en tout cas dans ce style d'éducation. Et on voit bien en fait qu'à cette époque, entre une autorité qui peut construire et puis de l'autoritarisme qui contraint, la frontière était assez mince et qu'obéir, ça pouvait aussi être du côté de la soumission en fait, de l'enfant à l'égard de l'adulte. Donc il y a des psychanalystes qui ont parlé un petit peu des ravages, on va dire, de ce style d'éducation. et puis des troubles que ça pouvait aussi créer. Donc ils ont un peu dénoncé ce style éducatif-là. Et en fait, c'est vers les dernières années du XXe siècle qu'on voit plutôt apparaître la question du développement de l'enfant, de son épanouissement. Donc un modèle un petit peu plus libéral, on va dire, de l'éducation, donc qu'apparaît en fait dans les années 70. Et en préparant l'intervention, j'ai repensé au slogan d'ailleurs de mai 68, qui était « Il est interdit d'interdire ». Donc voilà, ça guidait en tout cas la société à l'époque avec des idéaux autour de l'égalité, de la liberté, et éventuellement plus du consentement. Donc il y a eu aussi tous les psychologues ou psychanalystes d'enfants aussi qui ont apporté beaucoup d'éléments sur la construction de l'enfant. Donc bon, il y en a eu plusieurs, mais je parlerai peut-être plus de Françoise Dolto, parce que c'est celle aussi qui a beaucoup communiqué sur la manière dont on pouvait s'occuper des enfants, et qui a aussi communiqué là-dessus. Et ça a été un grand changement dans la perception, en tout cas, de l'enfant, qui, à partir de ce moment-là, devient une personne à part entière qu'on doit respecter, qui a la parole et qui a aussi de la valeur. Donc là, on voit un peu une bascule par rapport au modèle plus traditionnel. Et puis plus récemment, il y a des nouveaux concepts qui arrivent dans les courants éducatifs, qui découlent un petit peu de la psychologie positive américaine. Donc on parle de parentalité positive, d'éducation positive. Et en fait, là, c'est de nouveau, avec ce courant-là, des valeurs qui sont re-questionnées, puisque la question de la limite, la question de la contrainte ou de la punition sont perçues, enfin, ou peuvent être décrites comme des violences psychiques pour l'enfant. Donc c'est un discours, en fait, qui va valoriser plutôt l'expérience, en fait, que peuvent faire les enfants, et qui est moins du côté, on va dire, de la limite ou du non par rapport à l'enfant, et le souci des parents plutôt du côté de permettre à l'enfant d'exprimer son potentiel et de se développer le plus sereinement. Donc moi, je me disais que les parents, ils devaient être mis à mal par tous ces discours et ces changements de conception. Qu'aujourd'hui, en fait, les parents ne veulent plus donner l'éducation traditionnelle qu'ils ont peut-être reçue, ou en tout cas, ils ne l'ont pas reçue, on en est quand même un peu imprégné. Et que du coup, le discours quand même de l'éducation positive ou de la parentalité positive, il vient quand même opposer un peu ces notions de bienveillance et d'autorité, et que ça entraîne sans doute un peu de troubles et puis de culpabilité aussi chez les parents qui ne savent pas comment en doser, ou et qui se posent la question de est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas au quotidien, quoi. Donc moi, j'ai essayé de réfléchir à comment on pouvait peut-être essayer plutôt de faire un couple entre cette autorité, cette question de l'autorité et puis de la bienveillance, et en se demandant en fait en quoi se soucier de tenir une position d'autorité auprès de son enfant, ça pouvait être de la bienveillance en fait à son égard. Donc ça, là, il faut distinguer en effet l'autorité de la question de l'autoritarisme ou de l'abus de pouvoir, et puis de l'obéissance qui n'est pas de la soumission. Donc je vais essayer de donner des petits exemples ou de développer cette idée-là. L'enfant, donc, c'est un être à part entière, une personne à qui on va accorder de l'attention. Alors d'ailleurs, moi, j'aime bien utiliser l'expression de bonne veillance. On y fait attention. C'est aussi un être qui se construit. Et pour se construire, il a besoin de rencontrer quand même à certains moments la question de l'autorité et des limites. dans le discours un peu de l'éducation positive, il y a l'idée ou l'image que l'enfant, il obéirait finalement assez facilement ou naturellement, et que le parent, il peut être un peu cool, zen, expliquer les choses, parler avec son enfant et qu'il comprendrait tout de suite. Mais voilà, de ma petite expérience, j'ai l'impression que c'est pas ce que vivent les gens au quotidien dans leur famille. Donc ça vient sans doute dire que l'obéissance et l'autorité, en fait, ce sont pas des choses naturelles, ni pour les parents, ni pour les enfants. Et que, en fait, ça se construit dans la relation entre un parent et son enfant. Et ça va permettre, en fait, d'apporter des choses à l'enfant, notamment de comprendre des enjeux relationnels et puis aussi des codes sociaux pour continuer à grandir. Et donc, c'est pareil, l'autorité, ça apparaît pas de manière magique un jour comme ça ou à un âge bien spécifique. On pourrait se dire que finalement, c'est dès la naissance de l'enfant que se pose la question de l'autorité pour le parent. Mais qu'après, en fait, en fonction de l'âge et du niveau de développement, en fait, ça se modifie. Et c'est sans doute ça, en fait, qui est le plus compliqué avec la question de l'autorité. C'est que ça demande aux parents, en fait, de modifier toujours ou de réévaluer, en fait, ses positionnements en fonction de l'âge de l'enfant, en fait, et qu'une limite qui va être bénéfique à un enfant de 2 ans, bah, ça ne sera pas la même pour un enfant de 4 ans et encore moins pour un enfant de 8 ans. Donc ça demande de la souplesse et c'est ça qui peut être sans doute un peu compliqué. En tout cas, poser des limites à un enfant en respectant sa subjectivité, c'est sans doute possible. Il y a une différence de position entre le parent et l'enfant, mais on n'est pas dans une question d'abus de pouvoir. C'est une relation, on pourrait dire, qui est asymétrique. Ils ne sont pas à la même place. Il y a quand même un respect de la position de l'enfant en tant que personne et en tant que personne qui demande et qui a aussi besoin d'un autre à un moment pour pouvoir se repérer. Donc si on se place en fait du point de vue de l'enfant, on peut renverser l'idée que voilà, occuper une fonction d'autorité, ça serait du pouvoir sur l'enfant ou en tout cas de l'autoritarisme, parce que c'est une opération psychique en fait qui se fait à ce moment-là pour l'enfant et donc ça veut dire qu'il est actif et qu'il est présent, en tout cas qu'il joue quelque chose pour lui. Alors moi, je suis revenue sur l'étymologie. En fait, j'aime bien aller chercher, moi, d'où viennent les termes. Et par exemple, obéir, ça vient du latin et ça pourrait se traduire par tendre l'oreille ou prêter l'oreille. Donc je trouve que ça renvoie déjà une part active qui serait celle d'écouter, en fait, et puis de regarder ce qui se passe un peu autour de soi. Et puis ça nécessite aussi de se parler, ou en tout cas de communiquer. Et ça, pour moi, ça fait une différence quand même majeure avec la question de la soumission, où là, on est plus sur un comportement qu'on veut obtenir de manière, on va dire, plus normative. Et donc, il est actif, l'enfant, autour de la question de l'autorité. Et les limites, en fait, qui lui sont posées sont celles qu'il demande, en fait, auprès du parent ou de l'adulte qui s'occupe de lui et qui lui servent, en fait, pour se construire en tant que personne. Donc, ça veut dire aussi que l'enfant, quand on dit qu'il est actif, ça veut dire qu'il peut réfléchir à ce qu'on lui demande de faire. Il peut l'accepter, mais il peut aussi le refuser. Et forcément, ça amène, on va dire, un rapport qui peut être du côté du conflit ou du rapport de force entre son parent et l'enfant, parce que l'enfant, lui, il renonce pas d'emblée à son plaisir ou à ce qu'il veut sur le moment. Donc, on doit lui proposer, en tout cas, à certains moments, des barrières, en fait, qui sont infranchissables. Et si on lui cède trop souvent, finalement, ça peut entraîner de la confusion pour lui parce qu'il ne comprend plus en fait ce qui est autorisé ou pas, du coup. Et il y a un auteur en fait qui a écrit un ouvrage, enfin qui s'intéresse à la question des enfants, qui est Daniel Marcelli, qui explique un peu comment se construit en fait cette question-là de l'autorité entre un parent et un enfant. Et j'ai trouvé que son idée, elle était intéressante. Il remet ça vraiment dans les relations précoces entre les parents et les enfants, donc vraiment quasi dès la naissance. Et il explique en fait comment ça part d'un jeu entre les parents, qui est, on va dire, le processus de pointage, où le parent, il commence par pointer les objets, les nommer auprès des enfants, ce que les enfants font à leur tour après pour demander quelque chose. Et voilà, donc c'est plutôt un jeu entre eux. Et finalement, lui, il explique que c'est à travers ce premier partage ou ce premier jeu que se pose la question de l'autorité, parce que finalement... Il y a un partage de questions entre l'enfant et le parent, et il y a aussi un partage d'une idée commune. Mais après, ça ne suffit pas pour que l'autorité elle, se mette aussi en place entre un parent et son enfant. Il faut aussi qu'il y ait une augmentation pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il y gagne quelque chose. Et souvent, ce qu'il y gagne, c'est l'explication, ou en tout cas... la réponse que peut lui donner le parent, qui lui permet en fait après de comprendre un peu mieux les choses pour lui. Et donc c'est un premier questionnement, voilà, de l'enfant auprès de son parent, qui va chercher des autorisations, où il va interroger par le regard et puis plus tard par des questions. Et donc du coup je pensais à quelques exemples où par exemple un enfant qui va vouloir se saisir, alors plutôt un petit enfant là on va dire vers 2 ans, qui je sais pas attrape un couteau sur la table ou les ciseaux qui traînent, voilà, et l'adulte ou le parent qui est obligé en fait de lui demander de le reposer. L'enfant, il fait, je sens que ça parle. Voilà. Qui, du coup, lui demande de reposer le couteau, les ciseaux. Et il y a un espèce de moment de flottement comme ça, où l'enfant il regarde son parent, il ne fait pas forcément tout de suite. Ça demande souvent aux parents, voilà, de reposer les choses beaucoup plus clairement et de leur demander de manière plus ferme. Et là, souvent, l'enfant obéit. S'il n'obéit pas, le parent est obligé de lui reprendre des mains. Mais, et puis, il y a ce temps d'explication où on dit à l'enfant, on peut le remercier déjà d'avoir obéi. Puis on lui dit aussi, c'est dangereux, on peut se couper, on peut se faire mal. Voilà. Et je repensais aussi à un autre exemple. Quand on va jouer dans un parc avec un enfant, donc là, peut-être un peu plus vieux, mais... et qu'à un moment donné, l'enfant a envie d'aller rejoindre les autres enfants, donc il s'éloigne un peu du parent, et je ne sais pas si vous avez pu remarquer ça, mais il y a un petit temps d'hésitation, en tout cas, où il peut se retourner vers le parent, j'y vais pas, enfin en tout cas, il attend qu'il y ait une forme d'autorisation à pouvoir y aller, et le rassurer, et parce qu'il y a ce premier mouvement, le parent, il peut aussi le rappeler si à un moment donné, les enfants se bagarrent, je ne sais pas, enfin n'importe quelle raison, en lui expliquant que voilà, s'il rappelle, c'est aussi parce qu'il y a la question du danger. Et du coup, ce que je trouvais intéressant en fait avec ces exemples-là, c'est qu'ils illustrent que finalement, la question de l'autorité qu'on voit aussi du côté de l'interdit, au final, au départ, l'autorité, ça autorise l'enfant à faire quelque chose, ça lui, voilà, le parent ou l'adulte lui donne le droit d'aller explorer les choses, et du coup, il peut, par la suite, lui poser une limite qui comprendra, ou en tout cas, qui lui permettra aussi de grandir, parce que il aura une explication, en fait. À ce qui s'est passé. Et puis on voit aussi que l'autorité, ça s'inscrit dans une relation de confiance aussi entre, on va dire, un parent et son enfant. Et après, voilà, rapidement, je peux vous donner quelques petits exemples en fonction des âges, de comment après ça continue à se travailler, cette question-là de l'autorité. Pour un bébé, finalement, on n'en parle pas trop. On ne dit pas un bébé, ça obéit ou ça obéit pas. On parle plutôt sur des émotions ou son comportement, on va dire il mange pas bien, il dort pas bien, et finalement c'est plus l'adulte qui peut, on va dire, mettre des émotions, et c'est le départ, on va dire, après de la question de l'autorité, mais voilà, qui va interpréter en disant t'es contrarié, t'es fatigué. Et après, c'est plus vers, on va dire, entre 18 mois et puis... enfin, de 8 mois et 18 mois, où là, c'est vraiment aussi le temps de l'exploration motrice et puis de l'autonomie. Donc là, ça demande aux parents, en fait, de poser la limite auprès de l'enfant qui a envie d'explorer. Donc il l'autorise, mais à la fois, il le renseigne ou il lui pose des limites sur ce qui est possible et pas possible. Donc les objets qu'on peut prendre, qu'on peut pas prendre, qu'on peut toucher, pas toucher. Et en fait, l'enfant, à ce moment-là, il a vraiment besoin de répéter pour comprendre. Donc souvent, il va refaire, c'est très agaçant pour les adultes. Mais en tout cas, lui, ça lui permet de voir si c'est stable ou cohérent en fait, autour de lui. Et puis plus tard, en fonction des âges, voilà, il va intérioriser plus ou moins ses limites en fonction des stades qu'il va développer. Et puis quand il sera un petit peu plus grand, à partir de 6 ans jusqu'à l'adolescence, ben, il s'autorisera peut-être quelques petites désobéissances. Et ça demandera aux parents en fait, de hiérarchiser. Est-ce que je laisse passer certaines choses ou est-ce que du coup, là, je sanctionne parce que j'estime que c'est grave. Donc il me reste 1 minute, donc je conclus. En tout cas, peut-être qu'on peut se dire que l'autorité, ça consisterait finalement à autoriser assez régulièrement l'enfant à explorer, mais aussi de temps à autre à être obligé de lui poser une limite, à lui dire en fait que tout n'est pas possible, qu'on peut pas tout prendre et qu'on peut pas tout faire. Et quand l'enfant obéit, il reçoit une explication grâce à laquelle il va mieux comprendre le monde et il va pouvoir commencer à classer les choses, ce qui est autorisé d'un côté et ce qui est interdit de l'autre. Et ça, c'est une opération en fait qui est précieuse pour l'enfant parce que ça va le rassurer, ça va le stimuler aussi intellectuellement, ça va le faire réfléchir et ça va l'aider en fait à se socialiser et à intégrer les codes sociaux. Et quand un enfant va s'opposer, en fait, l'enjeu pour lui, c'est de savoir qui va diriger la relation, qui peut décider. Et c'est en reconnaissant ce besoin chez l'enfant, sans le disqualifier ou s'en moquer, en fait, qu'on peut autoriser ce mouvement, voilà, de pouvoir s'opposer et de rendre possible, en fait, le fait qu'il s'affirme et que ça va lui servir pour se construire son estime à lui. Mais en n'y cédant pas automatiquement ou systématiquement, parce que ce désir de toute puissance, il doit aussi faire avec une limite qui est représentée par l'autre et qu'il rencontrera plus tard. Donc en tout cas, on voit que ça s'inscrit dans une relation entre un enfant et son parent ou plus généralement un adulte. Et en tout cas, voilà, j'espère avoir réussi à relier, on va dire, l'autorité et la bienveillance, plutôt comme un couple. Et comment occuper cette fonction, ça permet en fait à l'enfant de pouvoir se construire et se développer sereinement. Je vous remercie de votre écoute.
Merci Adeline.